step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Bonjour, bienvenue sur le podcast Sur la ligne, le podcast champ gauche du CAF Football Club qui s'intéresse du côté du football et du soccer, celui des tribunes, des enjeux, celui du terrain. Aujourd'hui, nous parlerons musique et football, la place de la musique dans ce sport, son histoire, sa légende et aujourd'hui son marketing. Et comment ces deux arts se rapprochent de plus en plus. L'occasion de faire un clin d'œil au podcast Le football est-il un art que j'ai eu le plaisir de faire avec Thibaut Leplat et Xavier Delaporte. Mes invités sont des spécialistes des deux arts, Pierre-Étienne Minonzio, journaliste à l'équipe et auteur du livre « Le petit manuel musical du football », un livre que je ne saurais trop vous recommander, et Nicolas Chris-Martoff, journaliste à ce foot et pour la FSGT, et fournisseur de playlists de qualité. Salut, Pierre-Étienne.
Bonjour.
Bonjour, Nicolas. Ben, je vous propose de commencer. On va commencer très fort. Allez, qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. Et donc, c'est vrai que cette chanson, finalement, elle est presque plus célèbre que le club dans lequel, ou le stade dans lequel elle est chantée, puisque Timothée Mémon m'a dit sa surprise d'entendre ce chant dans les taxis du bout du monde, dans un podcast intitulé « Mon club a sauvé ma ville ». Et en fait, voilà, donc c'est vrai que finalement, cette représentation du club, elle est devenue plus grande que le club en lui-même, quelque part.
D'abord, il y a un groupe qui s'appelle Saint-Étienne, hein, faut quand même le dire, il y a un groupe anglais.
Excellent groupe, ouais.
Excellent groupe qui s'est intitulé de la sorte à cause de l'équipe. Donc voilà, faut quand même rendre hommage d'abord à la formation des Verts qui a été la première à rendre bankable et bandante de foot français, ce qui était quand même une gageure à une époque. Voilà, donc je voulais juste faire l'aparté parce que j'en ai en plus récemment parlé de ce groupe avec Christophe Bastera qui est un ancien de chez Magic. Voilà, ça fait partie quand même des petits trucs qu'il faut garder à l'esprit quand on a des complexes en tant que Français sur ce qui se fait. Comme voilà, parfois nous sommes une source d'inspiration même à travers notre football.
Exact. Tu voudrais aussi dire quelques mots sur Monty ou on va s'arrêter là?
Cette chanson est l'archétype même de ce que je n'aime pas dans la connexion foot et musique, quoi. C'est comme l'idée quand il chantait Allez les Bleus, et d'ailleurs, moi, ça nous renvoie à la polémique raison de Tondu Soufa, quoi. C'est, franchement, les hymnes de club et etc. sont rarement, quand ils sont officiels comme ça, ou qu'ils ont, en tout cas en France, c'est souvent décevant. À l'étranger, on aura l'occasion d'y revenir peut-être. Ça peut parfois être un peu plus glamour et encore. Mais voilà, c'est vraiment typiquement ce que je n'apprécie pas dans le rapport. Puis bon, c'est emblématique de la variété française. Enfin, c'est tout ce qu'on déteste. C'est du Vincent Deliarme qui parle de foot, quoi. C'est horrible.
Parfait.
Il y a un truc qui est très drôle. Ouais. Il y a un truc qui est très drôle avec Monty. Alors déjà, je rejoins ce que vous avez dit, c'est un carton incroyable parce qu'il en a vendu plusieurs millions d'exemplaires. C'est vraiment dingue, et notamment en Afrique noire, ça cartonne. Et en fait, c'est qu'une fois qu'il a eu ce succès-là, en fait, il a essayé de le décliner à d'autres équipes. Et notamment, il a fait Aller les Bleus pour la Coupe du Monde 78. Et un peu plus tard, il a fait Aller l'OM. Et c'est à chaque fois à peu près le même concept, pas tout à fait les mêmes arrangements, mais on n'est pas loin. Et ce qui est drôle, c'est qu'il est tellement... spécialiste de foot, voilà, c'est pas forcément sa cam, c'est tellement un coup marketing que par exemple dans sa chanson Aller l'OM, qui doit dater de 90, je crois, il dit en gros, les Marseillais vont descendre victorieux les Champs-Élysées.
Mais ça m'étonne pas parce qu'en fait, il y a quelque chose de très spécifique à ce type de chansons qui souvent étaient des commandes. J'ai l'impression il y a quand même toute une culture de gens qui se sont mis à chanter, même Daniel Balavoine avait fait un morceau sur les Verts,
tu vois, sur la caisse noire,
après la caisse noire, mais qui était plutôt une chanson allez, vous avez tous crié derrière eux, maintenant vous êtes gentils, les lâchez pas maintenant, quoi, c'est trop facile. Mais c'était voilà, c'est, il y a un moment, il y avait un côté c'est comme je veux pas rater Téléfoot de Renault, quoi. C'était un peu la tournure, c'est populaire, ça va vendre, ça a parlé à tout le monde, mais il y avait pas de, j'avais pas l'impression qu'il y avait d'artistes qui étaient de vrais amoureux ou des supporters ou des, comme on a pu, comme ça pouvait exister en Angleterre ou dans d'autres pays.
Justement, moi, ma question, c'est est-ce que les univers du foot et de la musique là, se rapprochent pas de plus en plus ? Et en quoi ?
Bah ouais, alors ça, c'est une des grandes théories que j'avance dans le, enfin, théorie, une des idées, entre guillemets, que j'avance dans mon livre. Et effectivement, on sent que ces deux univers, ils ont de plus en plus d'interactions ensemble. Et voilà, Nicolas parlait de la récente polémique autour du Soufa, et ça, c'est archétypal de, en fait, à la fois, il y a des artistes qui essayent de profiter du fait que le foot est hyper populaire, même si c'est pas forcément le cas du Soufa, hein. Et puis le foot essaye de profiter de la musique pour avoir un côté un peu plus branché. Bon, j'extrapole un peu, mais il y a un peu de ça. Et en fait, on voit que ça fonctionne pas toujours, mais il y a de dynamiques de rapprochement qui sont assez fortes. Et aussi, plus globalement, et ça Nicolas l'a dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui a changé aussi, c'est que dans les, par exemple, en Angleterre, même dans les années 80, c'était pas très cool de dire que t'aimais le foot parce qu'il y avait des hooligans, voilà, il y avait des chants homophobes dans les tribunes. Enfin, donc du coup, tu pouvais pas aimer les Smiths et aimer le foot. Par exemple, Johnny Marr, il m'avait dit qu'il cachait le fait qu'il était fan de Manchester City. Et en gros, il y a eu un basculement en Angleterre en 1990, en gros, avec World in Motion, le morceau de New Order. Et en France, ce basculement, toute proportion gardée, il s'est fait en 98 au moment de la Coupe du Monde. Et depuis 98 en France, effectivement, c'est devenu, il y a de plus en plus d'artistes qui revendiquent le fait, notamment des musiciens, d'aimer le foot. Alors qu'avant cette période, il y en a très très peu. Et puis quand ils le faisaient, c'était un peu, ils se cachaient un peu parce que, voilà, ils pouvaient être traités de gros beaufs, quoi. Donc c'est marrant, en fait, on voit que ce que je dis, ça dit aussi beaucoup de choses sur l'évolution de la place du foot dans la société, quoi.
Ouais, mais après, il y a comme une nuance avec l'Angleterre que je mettrais, c'est vraiment en Angleterre, il y avait quand même des interconnexions qui étaient liées aux subcultures locales. C'est-à-dire, par exemple, Chelsea, son hymne, c'est Liquidator, qui est un thème de skinhead reggae, qui était pas un numéro, qui a été classé numéro 4 ou 5 dans les charts anglais. Donc, c'était pas un morceau réservé à une élite. Mais il y avait ce rapport-là très fort. Le chanteur de Manesme, qui est un fan de Chelsea, m'avait raconté qu'il avait failli ne jamais être dans le groupe parce qu'il avait raté une répétition pour aller voir un match. Donc, il y avait comme une imprégnation très forte. La culture foot anglaise était quand même beaucoup plus importante. Et beaucoup de musiciens, malgré tout, le guitariste des Buzzcocks était un fan inconditionnel de United, de Manchester United. Voilà, il y avait quand même cette dimension. Ce qu'il y a, c'est qu'elle s'exprimait pas forcément musicalement, sauf cas comme par exemple les Cockney Rejects qui reprennent I'm Forever Blowing Bubbles et pour la finale de la Cup et qui le chantent, mais qui un titre qui devient numéro 3 ou 4 des classements aussi, avec un titre de Oi classique, mais qui reprend un chant de supporter. Voilà, ça, c'est des exceptions. Ce qui est vrai, c'est que dans les années 90, mais en France, on l'a peut-être vécu encore plus violemment parce qu'il y a eu 98 à la fin. Y a l'idée que le foot est devenu un phénomène culturel valorisant beaucoup plus. Avant, c'est vrai que tu as raison, on pouvait être pris pour un beauf, un hooligan, ce que tu veux. Mais en Angleterre, ça existait de manière forte. On ne pouvait pas ignorer ça parce que c'était quelque chose qui était lié à la classe ouvrière. En France, il y avait vraiment l'image du beauf, l'image de la vulgarité, l'image de... Moi, je me souviens quand j'ai commencé mon mémoire de maîtrise en 94 sur le foot. Quand je suis arrivé dans la grande salle du centre Malher à Paris, donc le centre de recherche fortement réputé, et que j'ai dit je voulais faire quelque chose sur le football, il y a eu quand même un blanc. Hein. Je ne veux pas me mentir. C'est un vrai blanc. Et je me souviens toute ma vie, à ma soutenance de maîtrise, il y avait Antoine Pro devant moi, un immense historien par ailleurs, mais d'un autre monde. Et c'était le lendemain de l'élimination. Non, c'était pas 94, donc j'ai commencé même avant. C'était le lendemain de l'élimination par la Bulgarie. La France par la Bulgarie. J'ai commencé en 93. Et j'arrive devant lui et il me dit mais ça va. Et je fais non, quand même, je ne peux pas aller. Vous rigolez. Il fait pourquoi? J'ai dit, la France a été éliminée par. Hier, vous n'êtes pas au courant. Il m'a fait vous me l'apprenez, monsieur. Voilà, vous voulez dire comment on vivait à l'époque. Donc je pense que c'est vrai que 90, et on a vu surtout que après 98, mais là, tu as raison. Emmanuel, c'est après la on a vu des artistes qui ont commencé non pas forcément à écrire dessus, mais à le revendiquer, à le valoriser comme un plus et à répondre à toutes les interviews. On a tous vécu ça avant. Les magazines comme SoFoot, par exemple, sont emblématiques de ça. C'est que maintenant, tout le monde veut parler de foot dans SoFoot. Tu vois, tous les artistes qui sortent un disque veulent parler de foot dans SoFoot ou dans l'équipe, même. Tu vois,
Non, mais SoFoot a été là-dessus. SoFoot a été vraiment en avance. C'est-à-dire, dès les premiers numéros, on a parlé de musique et de football, et finalement, on a mis ces deux univers qui se côtoient, enfin, qu'on voyait peu dans les médias, ensemble, et on a vu que ça matchait vraiment bien, quoi.
Moi, je suis à fond, et d'ailleurs, j'adore SoFoot, j'y ai écrit, c'était un souvenir incroyable, et c'est totalement vrai, mais je nuance juste en fait que l'équipe le faisait beaucoup aussi avant, mais on n'arrivait pas à le mettre en valeur aussi bien que SoFoot. Mais par exemple, quand on regarde dans les archives, il y a vraiment plein d'interviews dans les années 70, 80, 90 d'artistes que, alors c'était pas récurrent, mais ponctuellement, on leur demandait leur avis sur le foot. Et par ailleurs, Orson Welles, par exemple, l'équipe a fait sa une avec Orson Welles, je crois que c'est au début du Tour de France 1950. Parce que Orson Welles était en France, il avait donné le coup d'envoi du Tour de France. Et donc, toute la une de l'équipe, c'est Orson Welles qui parle de cyclisme. Donc, ce que je veux dire, les interactions, elles existaient. Voilà, c'était juste parce que quand je suis à l'équipe, il faut que je défende un peu ma boutique. Non, mais il est vrai que
chacun son corps.
Ouais, exactement. Mais une fois que j'ai dit ça, évidemment, SoFoot l'a systématisé, l'a très bien fait. Voilà, et alors, avec peut-être des dérives aussi auxquelles nous on participe aussi, c'est qu'effectivement, parfois on se retrouve à parler à des gens qui ne sont pas fans de foot, mais qui ont compris qu'ils avaient intérêt à en parler pour se faire remarquer, quoi. Et c'est marrant parce qu'en Angleterre, il y a le même problème. Moi, je me souviens avoir discuté avec un journaliste de l'émission Soccer AM. Qui est vraiment une émission un peu genre qui croise ces univers où au milieu de l'émission il y a un groupe qui est fan d'un club qui va jouer de la musique, et il m'avait dit qu'en fait il se rendait compte que il y a plein de gens qui venaient dans l'émission pour jouer, pour se faire connaître, mais en fait ils connaissaient strictement rien au foot, quoi.
Par contre, cette tendance là elle est on peut parler particulièrement du rock ou de la pop, exactement. C'est vrai qu'elle elle s'est retrouvée aussi parce que l'émergence du hip hop et le public qui le défendait, les gens qui le produisaient, par contre eux, ils étaient foot à mort, de vie, que le foot était aussi présent dans les quartiers populaires.
Ouais,
Ils avaient des frères qui devenaient parfois professionnels ou qui jouaient dans des clubs. NTM était emblématique, c'est-à-dire que Wakul Shen, c'est quelqu'un qui l'a très bien dit. À un moment, je voulais être footballeur et en fait j'ai fait du hip-hop, mais c'est son rêve, c'est comme Mickey Rourke et la boxe, quoi. Son rêve c'était d'être footballeur professionnel. Et ça, c'est dans le monde du rap, ce rapport très fort qu'on retrouve aussi chez MC Solar ou qu'on retrouvait dans d'autres, il est quand même assez naturel. Ce qui est marrant, c'est que ça s'est cristallisé sur des oppositions, par exemple à IAM et l'Olympique de Marseille. Avec d'autres groupes à Paris, Mars, qui n'étaient pas forcément, je pense, très fortes en fait, qui n'étaient pas aussi viscérales que ça pouvait exister en Angleterre ou ailleurs. Voilà, c'était pas aussi basique. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, là où tu as raison, ça se rapproche de plus en plus. Les rappeurs qui vont porter des maillots d'un club en particulier, il va dire Jules en a une illustration ou d'autres, hein, même par exemple quelqu'un comme Booba qui est pas forcément.
Booba, c'est un excellent exemple. Booba, moi je l'ai interviewé trois fois et c'est un mec évidemment brillantissime qui a la meilleure punchline du monde, mais concrètement, il ne s'intéresse pas au foot. Et d'ailleurs, il était récemment là sur France Inter, il a été interrogé sur Benzema et il a un peu navigué. Il savait pas trop quoi dire. Et en fait, à un moment, il s'est vraiment mis là-dedans. Il a même essayé d'être agent de joueur parce qu'il a vu que c'était porteur. Mais maintenant, il le fait plus. Il a hâte de faire semblant parce que, à part dire, il y a que des numéros 10 dans ma team, en fait, il connaît pas assez. Mais c'est pas grave, d'ailleurs, le droit de pas aimer le foot. Hein.
Après, il utilise le foot dans son sens de la punchline quand il fait AC Milan, ce morceau-là. Il joue là-dessus et il sait utiliser Je suis duc de Paname, donc il porte un maillot du PSG. Enfin, il sait jouer sur les. Parce qu'il a compris les codes et qu'il les maîtrise
partout. Il joue sur l'ambiguïté, mais ça tient pas en interview. Quoi.
Non, ouais. C'est pas Kouchen. C'est pas Kouchen. Quand tu commences une interview sur le foot, t'as intérêt à avoir du temps devant toi. Parce que. C'est pas ce type de personnage, mais il y en a d'autres. Hein. Mais après, ce qui, moi, me fascine aujourd'hui, c'est. Qu'il y a quand même toujours aussi peu de bons morceaux sur le foot. Enfin, c'est comme sur les livres, hein, même s'il y en a peut-être un peu plus, je pense, aujourd'hui. Moi, je suis en train de l'en lire un qui est pas mal, qui s'appelle l'Élite Football Club. Mais voilà, il y en a quand même des morceaux sur le foot qui savent en parler, qui savent. Enfin, autrement qu'en utilisant des gimmicks, un vrai morceau, comme a pu faire Billy Bragg sur God Footballer, ou de ce Takadibi là, de ce Takabi, j'en vois très très peu. C'est aussi, je trouve qu'il manque quelqu'un qui est capable de faire de la très bonne. Enfin, tu vois, c'est c'est compliqué à résumer, mais des grands morceaux sur la politique, des grands disques sur plein de thématiques. Alors l'amour, évidemment, on n'en parle même pas, mais sur tout, quoi. Il y a vraiment sur même les voitures, c'est sur les... et même sur le cyclisme, après quelque part. Mais là, franchement, ouais, je sais pas ce que t'en penses, Père Emmanuel, mais moi, j'ai jamais entendu un morceau sur le foot en français qui m'ait fait, qui m'ait transporté, quoi.
Ouais, je serais un poil moins sévère que toi.
Me parle pas de Mickey 3D, sinon j'arrête.
Non, mais même le, il y a quelques tentatives originales. Le morceau de sur Platini, Julien Doré, pour moi, il est pas, c'est pas mal, c'est pas mal. Et par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé le morceau du Soufa. Je crois qu'il était top, top le morceau du Soufa. Ouais. Et c'est lamentable que voilà que la Fédé ait finalement dit que c'était une mauvaise idée. Moi, je trouve qu'il y a quelques trucs qui finalement sont pas si mal.
Le Soufa, lui, il triche pas. Hein. Il a été, il est régulièrement sur Beansport. Il parle de foot. On voit que c'est quelque chose qu'il connaît. C'est quelque chose qu'il suit.
Et moi, j'avais. C'est un malade. C'est un malade, voilà. C'est un malade de Liverpool. Moi, j'ai fait un podcast avec lui et Mamadou Sakho, mais c'est extraordinaire. Franchement, là, j'avais rien à faire. J'avais qu'à me poser, les écouter parler. Et vraiment, c'est un dingue de foot. Et c'est un mec qui est hyper engagé par ailleurs dans plein d'associations, dans plein de... Enfin, voilà, qui est un mec qui a quand même une ouverture d'esprit exceptionnelle. Et voilà, l'avoir vu se faire résumer à quelques punchlines sortis de leur contexte, ça m'a foutu en l'air, punaise.
Ouais, mais bon, enfin, tous réagissent pareil, mais voilà, enfin, pour le coup, Youssoupha, c'est alors, dans les rappeurs qui pouvaient faire quelque chose pour l'équipe de France, oui, il était quand même dans le tiercé de tête, quoi, parce qu'il avait la légitimité par l'amour, parce qu'il avait un discours derrière, parce qu'il est, il y a deux, trois, toi, après le morceau, moi, il ne me transcende pas, mais il y a quelques punchlines qui sont pas mal, tu vois, le truc d'ailleurs, enfin, il arrive à dire quelques mots. Alors, tu vois, c'est quand même autre chose que ramener la coupe, c'est autre chose que ramener la coupe à la maison, tu vois, c'est.
Bien sûr. Ouais,
c'est comme, enfin, je suis désolé, moi, VGT, j'en peux plus, mais.
Mais ramener la coupe à la maison, justement, c'est intéressant. C'est les joueurs qui l'ont amené. C'est que finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a l'hymne de la fédération, il y a l'hymne qui est choisi par tel, ou celui qu'on veut nous imposer, mais à la fin, celui dont on se rappelle, c'est pas forcément celui-là. Et celui qui réussit, c'est pas seulement celui-là, c'est Vincent Candela avec I Will Survive en 98, c'est VG Dream.
Ouais, alors après, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Parce que, tu vois, par exemple, Nicolas parlait tout à l'heure du morceau de Johnny Hallyday, voilà, qui était terrible en 2002, mais finalement, il a cartonné quand même parce qu'il a été matraqué par TF1 et il s'est vendu à 500 000
exemplaires. Parce que c'était Johnny Hallyday. Les gens qui aiment Johnny Hallyday, ils achètent tout Johnny Hallyday. Donc, ils ont acheté ça aussi.
Deux autres contre-exemples. C'est 2006 qui avait cartonné. C'était Zidane, il a marqué, qui était catastrophique de Coem et qui a cartonné juste parce que c'était le bon moment. Et tu vois, c'était le moment où, voilà, et puis c'était un peu entraînant. Plus, le morceau en 2010 qui avait marqué les esprits, c'était « On est français, les François, François le français », le truc de Marais Fred, là. Donc, en fait, t'as aussi parfois juste des mecs opportunistes qui trouvent un petit air un peu stupide et, en fait, ça suffit à faire un tube. Donc, il y a pas vraiment de règles, tu vois.
Ouais, c'est le syndrome de la Zoubida, mais c'est quelque chose de très fort dans la culture française. Mais malheureusement, mais après, pour le coup... Pour revenir à ce qui est quand même le cœur de l'histoire, c'est ce qui est quand même terrible, c'est que contrairement à de nombreux clubs anglais, quand je disais que les clubs ont souvent des musiques qui les identifient, alors, donc West Ham c'est la fameuse Immobiles, enfin tu l'as très bien expliqué dans ton bouquin, chaque club anglais a quand même une chanson qui colle à la peau et l'utilisateur de ton châssis, etc. Tu mets Liverpool, ils ont repris des trucs des Beatles évidemment, mais voilà. Et qui sont pas forcément en lien direct, hein. Bowling Bubbles de West Ham, au début, c'est un truc d'opérette, quoi. Enfin, c'est terrible. Mais ce qui manque en France, c'est que j'ai pas le sentiment aujourd'hui que les clubs, alors qu'il y a des cultures ultra, il y a tout, quand même malin partout, et quelque chose d'équivalent, toi,
ça, c'est un problème avec la notion de variété en France, quoi. C'est-à-dire qu'en France, je pense que c'est plus un problème global, si on compare avec l'Angleterre. L'Angleterre, tu vois, tu vas entrer dans un pub, la musique que tu vas entendre, elle va être cool, elle va être grand public, elle va être pop, mais en France, on catégorise plus les choses, tu vois, et qu'en fait, en France, on a surtout cette variété qui nous plombe un peu, que tu retrouves tout le temps, et qu'en fait, spontanément, les clubs, ils se tournent vers ça en se disant, mais c'est le truc le plus grand public, tu vois. Et donc, effectivement, Johnny Hallyday, c'est l'incarnation de ça. Et donc, en fait, en France, le truc, c'est que je pense que t'as pas un genre musical qui fait consensus aussi, quoi. Et donc, du coup, les clubs, ils se disent, OK, on veut un bon morceau pour notre club. By the way, c'est quoi un bon morceau? C'est un rap aujourd'hui, c'est peut-être un truc un peu électro sans parole, comme ça on prend pas de risque. Et en fait, tout, tu vois, par exemple, Lyon, ils avaient demandé à Biolay, de ouais. faire leur hymne. Et c'est, tu vois, je veux dire, sur le papier, tu peux pas rêver mieux. Tu vois, Biolay, il est frappadingue de Lyon, un truc de fou. Sauf qu'en fait, dans les faits, en fait, il a pas vraiment trouvé, parce qu'il n'arrivait pas à trouver un hymne, une sorte de. Mais ouais, c'est un challenge qui est assez compliqué, quoi.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ouais, mais regarde, Marseille et Jump. Ouais, ça résume tout. Comment tu peux... Ouais. C'est pas possible qu'une ville par ailleurs qui a eu de grands artistes. Voilà. C'est Jump, quoi. Et Jump, c'est quand même ce qu'on aime le moins dans la musique américaine. Enfin, c'est juste catastrophique. C'est le rock FM dans sa splendeur. Après, j'imagine aussi que le problème aujourd'hui auquel on est confronté, c'est, si on parle de musique et de football, c'est que c'est dur d'être classe en étant entier. C'est-à-dire que voilà, si tu dois écrire un hymne, tu dois à un moment dire on est les meilleurs, on est les plus beaux, c'est un truc qui doit être apologique. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus élégant et tripant dans l'écriture en musique, mais d'ailleurs partout en roman. Quoi. Si tu écris une histoire d'amour dans un roman pour expliquer que tout s'est bien passé, qu'on s'aime et qu'on est au coin du feu en train de se regarder dans les yeux, tout le monde aura fini le livre à la troisième page. C'est ouais, ce qu'on aime et ce qui nous fait vibrer dans l'art, hein, la culture, tu vois, c'est des choses qui sont un peu plus abrasives, compliquées, subtiles. Et de ce point de vue-là, l'hymne est un exercice. Moi, j'avais interviewé Ludovic Einaudi, ouais, le compositeur italien, qui aimait vraiment le foot, hein, mais qui était très étonné que ces musiques soient utilisées par l'UEFA, parce que il avait dit, je ne les ai pas composées dans ce but-là. Enfin, c'est pas des trucs, c'est plutôt des trucs élégiaques, tu vois, un peu. Il me disait, bon, il comprenait pas, il a dit, j'ai jamais été sollicité, moi j'ai jamais écrit pour l'UEFA, c'est l'UEFA qui a récupéré et qui m'a filé des droits d'auteur. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué, l'hymne, puisqu'on parle de ça hein, maintenant, l'hymne d'un club ou d'une équipe nationale, tout le monde n'est pas New Order.
Voilà, exactement, c'est une bonne punchline ça.
Moi c'est un des rares exemples que je sortirais du lot, quoi. C'est pour le reste.
Et pourtant, la musique, les clubs essaient de plus en plus d'utiliser la musique pour leur promotion, essaient d'intégrer ça. Finalement, voilà, il y a l'image de marque, on met aussi la musique autour. Alors, comment est-ce que vous analysez ça et comment est-ce que vous voyez ça?
Effectivement, il y a de plus en plus de travail sur l'accompagnement musical des matchs, par exemple. Tu vois, quelle musique tu fais avant. Par exemple, les Anglais, ils sont trop forts, ils communiquent vachement sur les playlists avant les matchs. Par exemple, ils vont faire venir des personnalités à Old Trafford, à Manchester United, et qui va décider, aujourd'hui, c'est tel acteur qui décide de la playlist, et voici cette playlist, est-ce que ça vous va ou pas? Enfin, et donc, effectivement, ça devient un argument, mais c'est vrai qu'en France, chacun rêve d'avoir l'hymne absolu, et à part effectivement Saint-Étienne et Lens, en fait, il y a quand même peu de clubs qui ont un hymne connu de tout le monde, hyper entraînant. Parce que effectivement, Nicolas est pas très fan de suite Saint-Étienne, mais le fait est qu'il faut aussi que ce soit quelque chose qui soit capable d'être, qui puisse être repris par un stade entier, quoi, c'est et ça. Facilement, voilà. Et j'avoue que effectivement, quand même, quand t'es à Saint-Étienne et que tout le monde fait ce rugissement, allez, et ben ça te fout les poils quand même. Donc voilà, c'est un peu une équation impossible, mais ce qui est fascinant, c'est que tous les clubs là sont confrontés. Et il y a un autre choix qui est hyper important, c'est la musique qui accompagne, ça j'ai un peu écrit là-dessus, c'est très drôle, la musique qui accompagne l'entrée des joueurs. Donc évidemment, ouais. À Marseille, c'est Jump, mais ça devient un enjeu complètement délirant, quoi. Entre ceux qui, comme à Nice ou à Rennes, il faut, ça doit être un chant local, dans le patois, entre guillemets, local, pour dire, affirmer son identité. Entre ceux qui veulent un tube du moment, mais qui va mal vieillir. Entre ceux qui adorent, effectivement, les tubes des années 80, donc ça peut être Music is my first love, ou Jump. Et voilà, et donc, ou Europe, Final Countdown, ce genre de truc. Donc en fait, et parfois il y a le président qui passe qui dit bah moi j'aime bien Johnny donc on va faire ça. Donc en fait effectivement il y a jamais de consensus et c'est assez fascinant à regarder quoi. Il y a très peu de clubs qui arrivent à s'en sortir.
Bah voilà, c'est comme tu l'as dit, après là encore on n'est pas après finalement sur la connexion musique football, que le football désormais inspire des artistes, ça fait partie de leur vie et qu'ils soient capables d'en parler comme d'une existence, de ce qui façonne leur créativité, leur rapport au peuple, à leur culture nationale, blablabla, tout ça, oui. Mais là, si on est sur le truc le plus basique au monde, c'est ouais, au nord c'était les corons. C'est tellement révélateur. Et je dis ça alors que le public l'en soit, on est tous d'accord, et, etc. On est très heureux pour le club, sa renaissance. Mais voilà, au nord, c'était les corons. Ok, Bachelet, c'est le mec qui écrivait des bandes originales pour des films de Luc. Donc,
Emmanuel. Des films adultes.
Des films pour adultes, il s'appelait Emmanuel. Mais voilà, c'est quand même ça, Pierre Bachelet. J'ai rien contre lui. Et puis sûrement, il était sincère dans ce qu'il disait,
Voilà. Mais cette chanson, elle touche les gens qui l'écoutent et elle touche aussi les gens qui la chantent.
Pas une seconde.
Voilà.
Un truc. Va à Chelsea et tu vois, tu rentres dans un stade où ils jouent Liquidator. Et ils sont tous là et ça fait un an et ça s'arrête et t'as tout le tas qui tambourine. Le morceau est top. Les gens, ils sont en rythme, ils savent et franchement, c'est quelque chose à vivre. Je peux dire que alors, ça s'est pas vu récemment, mais et même je sais pas, c'est en Italie, ils ont une capacité aussi à chanter, par exemple. Qui était impressionnante à une époque. Après, parfois, c'était pas forcément de très bon goût, mais moi, je sais pas. Après, je pardonne beaucoup au stade, mais par exemple, la méno, ils ont pas de chant, tu vois. Il y a pas un truc qui retourne la méno, c'est pas vrai, tu vois. L'ambiance est extraordinaire, il y a personne qui dirait le contraire. On a vu à quel point cette saison c'était dur pour le Racing d'exister sans ça.
Non, mais la méno, il y a une espèce de playlist, une playlist que les gens connaissent, qui est après, voilà, c'est le travail du capot. Hein. On en a déjà parlé ici, mais il y a quand même, et ça fait partie aussi, moi je considère, à la méno, de l'acceptation de l'autre, parce que c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai découvert quand le Racing a fait sa renaissance, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient, qui n'étaient pas ni strasbourgeois, ni alsaciens, mais qui étaient juste là parce qu'ils étaient étudiants, qui avaient été ramenés par un copain de l'amphi, et qui ont aimé cette ambiance, qui se sont intégrés, et finalement, ces chants, c'est une partie de l'intégration. Et si tu chantes à côté de l'autre, eh ben, on est pareil, et finalement, ben, t'es accepté, on dit bien que les Alsaciens sont froids, ben, au stade, c'est assez simple de...
Ouais, pas ça, les Alsaciens sont froids, s'il te plaît, non, c'est bon, c'est les Niçois qui sont froids, hein. Dans ce cas-là, non.
Il y a un grand débat, si elle, mon mari, est muté en Alsace, mais, non, mais c'est vrai que c'est intéressant, et... Il y a un autre truc qui, moi, m'intéresse beaucoup si on parle justement des chansons de stade, c'est qu'on dit beaucoup qu'en France, il y a peu de créativité et il y a peu de chansons au long cours. C'est vrai qu'on voit beaucoup ça, là. Il y a beaucoup de vidéos, par exemple, du Raja Casablanca au Maroc, qui sont sous-titrées pour les gens qui sont pas, qui parlent pas le d'ailleurs. Et il y a un vrai discours politique et il y a une chanson avec des strophes et c'est pas juste, allez les bleus, on est les meilleurs. Où aller les verts, c'est nous les plus forts.
Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est... Ben alors c'est... Moi, j'ai le souvenir quand je fréquentais la méno que j'étais étudiant, donc j'étais vraiment l'étudiant que tu as décrit, qui était ramené par un copain d'amphi. Je me souviens d'un chant qui avait été chanté, alors ça remonte un peu, contre Mandragone, qui était le gardien de Metz à l'époque. J'avais assisté à un derby. Voilà, et c'était sur l'air d'une chanson d'Edith Piaf, et ça mettait en valeur certains attributs de Mandragone.
Le public de la méno aime beaucoup Edith Piaf. Il y en a eu beaucoup et beaucoup de reprises. C'était plus ou moins réussi.
Ça commençait par allez, viens Mandragone, viens nous montrer ton. Voilà, et puis après il y avait plein de choses. Et ça, voilà. Non, donc il y avait des chants quand même.
Faut faire la différence entre les chants, notamment pour chambrer en face, qui récupèrent souvent des choses très classiques comme ça, et effectivement la question de la musique emblématique du club, tu vois, c'est
bien sûr, évidemment.
l'entrée du stade, l'entrée, t'as raison, c'est devenu fascinant comment l'entrée des joueurs, il faut qu'il y ait quelque chose, enfin tu vois, c'est, alors que ça dure pas longtemps en fait, c'est un tout petit court, c'est un instant assez court, donc je sais pas, après moi je trouverais dommage, mais je sens que c'est en train de venir, parce que je vois par exemple l'OM a créé son label à la jointure de comment ça s'appelle, Defjam en France, où, voilà, je trouverais dommage par contre, comme ça peut exister ailleurs, que les clubs s'investissent. Vous savez, André Breton avait expliqué à Trotsky qu'il fallait surtout pas que le parti s'occupe d'art. Il disait l'art est politique, la politique ne doit surtout pas diriger l'art, ne doit pas façonner l'art. Et c'est quand Trotsky était en exil en France. Hein. Donc voilà, et je pense que c'est un peu ça. Le football doit s'imprégner de l'univers musical, l'univers musical peut s'imprégner du football, mais il faut surtout pas que le monde du foot, les clubs, etc., commence à passer des contrats avec des artistes. Parce que je pense que là, on va arriver vers des dérives encore plus terribles que effectivement aller les verts ou tout ce qu'on a pu évoquer auparavant. Et à Manchester, il y a eu ça un peu, la volonté de City de valoriser le côté pop rock, ça, mais les membres des frères, avec les frères Gallagher, Oasis, tout ça.
City sont à fond là-dedans. City, ils sont par exemple, ils organisent des concerts tremplin devant l'Etihad avant les matchs.
Voilà, mais voilà, j'en profite pour citer le très bon livre de Nicolas Pratt sur Oasis qui vient de sortir, mais et qui parle un peu de ça. Mais voilà,
la revanche des ploucs.
Exactement, très bon livre. Franchement, je le conseille à tout le monde en matière de musique. Mais voilà, c'est un peu ça. Il faut éviter. Enfin, franchement, c'est le truc qui à proscrire. Et pas même le rap, moi, c'est un truc qui m'angoisse. Parce que les clubs commencent à vouloir façonner des écuries de rappeurs, mais on va arriver à des choses catastrophiques.
Mais c'est vrai que, par exemple, l'annonce de la signature de Pogba à Manchester United, c'est un truc vraiment lunaire, quoi. C'est juste, voilà, il y a une marque de fringues, il y a un rappeur, on comprend rien, puis à la fin il y a Manchester United, quoi. C'est un produit marketing, le truc, quoi. J'avoue qu'effectivement on va vers des dérives. La question, c'est l'authenticité, quoi. Faut que ça reste authentique, faut que les plus il y a du marketing là-dedans, et mécaniquement moins c'est authentique, quoi.
Mais il y a une vraie volonté aussi, c'est la volonté de l'expérience client. Finalement, la musique, elle est au cœur de cette expérience client, et c'est de dire que finalement, un peu comme aux États-Unis, on va aller au stade évidemment pour voir un match, mais aussi pour passer un bon moment. Et justement, ce bon moment, l'intérêt de ce bon moment qui peut être musical, par exemple, c'est que il va être déconnecté du match et que même si le match est décevant, eh ben, on aura quand même passé ce bon moment. Même si le résultat est décevant, on aura passé ce bon moment. C'est un truc que Boris Leleu, il m'a expliqué dans un précédent podcast. Et cette expérience client, oui, c'est quand même une des grandes volontés.
Grand spécialiste du football, du sport américain, Boris Leleu. Pour rappeler qu'il est.
Exactement, à l'université, il enseigne à l'université de Caen, grand spécialiste du sport américain, en effet.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est tout à fait vrai, et c'est l'évolution du foot, sauf que, évidemment, ça va à l'encontre du fait que il y avait parfois, chez les supporters, le plaisir, justement, de la non-expérience, quoi. Et que parfois, tu prends d'autant plus de plaisir que le match est pourri, qu'il pleut, qu'il y a une faute d'arbitrage, qu'en fait, il y a juste un péno raté à la fin, et qu'il n'y a que de la frustration, et toi, tu as crié tout le match. C'est ça qui est très compliqué, quoi. Il faut trouver un équilibre entre, effectivement... parce que si tu rends une expérience client, comme aux États-Unis, où tu assistes à un spectacle, où on vient te livrer de la nourriture. Voilà, en fait, si t'es trop confort, effectivement, t'as pas forcément envie de participer au jeu. T'es juste spectateur et pas acteur. Alors qu'effectivement, supporter, ce qui est génial, c'est quand t'as l'impression de pouvoir influer, de vivre vraiment le match, quoi. Donc c'est difficile de trouver un équilibre, en fait.
Après, sur le cas de la musique, il faut laisser venir, quoi. À un moment, si un artiste aime son club ou aime, il y a des choses à dire, ou fait une allusion dans un, voilà, Benjamin Biolay, que je suis pas hyper fan, mais je doute pas une seconde de sa sincérité, pour Lyon, et j'ai pas de conscience qu'il écrit un morceau, où ça soit, mais peut-être que ça sert encore plus Lyon qu'il y ait un Benjamin Biolay qui soit justement cet artiste en costard, qui écrit qui trousse des belles chansons, pour des étudiantes, en architecture ou en art, mais, voilà, c'est plus valorisant que de lui commander une chanson, tu vois. Et à l'inverse, je sais pas comment résumer ça, mais voilà, en Angleterre, moi je suis désolé, West Ham, ils étaient tellement liés à West Ham qu'à un moment ils ont chanté ça, mais ils ont même pas pensé à demander au club, ou après c'est juste devenu un truc énorme. Mais c'est ça qui doit arriver. Et qu'à un moment, voilà, c'est que les groupes aient envie de. Voilà, quand, moi, je me souviens d'avoir vu des concerts, des specials, enfin, concerts de des specials, bon, j'aurais peut-être pas dû, mais maintenant, d'ailleurs, en formation, j'ai toujours été contre. Mais voilà, où il y avait une partie des anciens du Test Falco, parisiens, tout ça, qui étaient là, et c'était très PSG, mais il n'y avait pas le côté. C'était artificiel, et c'est ça qui doit être entretenu, comme par exemple comme Ancilla Sound System, ils passaient en à Paris, ils passaient en concert, ils étaient fans, ils étaient supporters, il y avait des écharpes, mais c'était pas un truc le club nous a payé, enfin ils avaient pas besoin de
authentique,
voilà, authentique, en tout cas il y avait une sincérité ouais. et la sincérité, elle a pas besoin forcément d'être dans des paroles pour dire pour clamer qui on est, avoir un rapport au club et que le foot soit quelque part présent, mais c'est compliqué, c'est subtil, et c'est vrai que là où la limite se fait, c'est que quand les supporters ont besoin d'un nid, ont besoin de chanter ou un truc, la subtilité elle s'évapore un peu forcément, faut le dire, et on a plutôt envie de voilà, mais voilà, moi je pense qu'il faut le problème de la France, c'est qu'il va falloir un moment comme on a accepté que le football était quelque chose d'important, il va falloir accepter que la musique soit quelque chose d'important, et il faut respecter que chacun reste. Voilà, il faut pas forcer on peut pas accoupler les animaux en captivité, donc il faut pas forcer les mariages. Mais voilà, il y a des très bons. Je sais pas, c'est compliqué à résumer.
Pierre-Étienne, toi, là-dessus, qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu dirais?
Non, mais je suis totalement d'accord, effectivement. Mais alors à la décharge des.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
En fait, c'est une question qui est quand même compliquée, quoi. Si j'étais, par exemple, directeur marketing d'un club, et que tu vois que Benjamin Biolay, il déclare mais sa flamme dans des proportions délirantes à l'OL, c'est vrai que tu te dis, punaise, mais on doit en faire quelque chose, quoi. Et donc, effectivement, il faut arriver à faire des... En fait, tout est une histoire de... Je dirais, c'est d'équilibre, quoi. Il faut arriver à faire des projets qui sont... Moi, par exemple, j'aime bien l'idée que Man City, ils font scène ouverte, tu vois, devant l'Etihad. En revanche, je suis moins fan quand Man City, ils font des suites aux couleurs de l'Hacienda, tu vois. Et je dis ça, ces suites, je viens d'en acheter un, ça m'a coûté une fortune, donc je suis complètement contradictoire. Mais quand ils le font, c'est pas très malin. Et en fait, c'est pour le coup, c'est vraiment marketing. C'est juste pour essayer de... C'est pour essayer de dire que Manchester City, c'est le vrai club de Manchester. Manchester, c'est la musique. Donc, Manchester City, c'est l'Hacienda, c'est la boîte mythique, machin. Donc, en fait, ça fonctionne pas. Quand Marseille, à un moment, ils avaient fait des écharpes avec Soprano, il y avait des écharpes qui étaient vendues avec chaque album de Soprano. Tu pouvais avoir des écharpes de l'OM. Enfin, là, c'était un peu too much. À un moment, Soprano était ambassadeur de l'OM. Ça fonctionne pas très bien, effectivement. Donc, tout est une histoire d'équilibre. Trouver le bon dosage
mais justement
mais moi l'histoire du directeur marketing, c'est marrant parce que j'avais interviewé un groupe qui s'appelle The Shoes, qui est un très bon groupe électro de Reims, et qui sont fans du stade de Reims. Ils avaient fait même un morceau qui s'appelait Oblivion en hommage au stade, mais ils n'ont jamais, toi, ils n'ont rien de plus. Et quand tu discutes avec eux, là pour le coup on est dans le profil, j'aime le foot, je suis ça, et arriver à connaître tous les effectifs de Reims, alors que c'est pas, ça fait comme un bout de temps que c'est plus une très grande équipe, même si on aime beaucoup ce club. C'est paru dans SoFoot, et le site aussi de SoFoot, et le mec a appelé la rédac pour avoir leur contact, parce que il avait vu, voilà, putain génial, il y a des mecs un peu hyper branchés.
Est-ce que la musique électro, est-ce que le rock, c'est pas c'est pas des musiques qui sont en adéquation avec justement les gens qui dirigent ces clubs et moins le rap, parce que on l'a dit au début du podcast, il y a un terreau commun. Il y a des rappeurs qui auraient pu devenir joueurs de foot professionnels. Il y a des joueurs de foot professionnels qui se rêvent rappeurs. Ils ont des frères, ils ont des cousins. Et là, elle est là, le truc, le vrai truc. La vraie connexion, elle est là.
Il y a un décalage générationnel. Et effectivement, les décideurs, les mecs qui dirigent les clubs, en fait, ils sont pas du tout hip-hop. Pas encore. Donc, il faut peut-être attendre 20 ans pour que les mecs, tu vois, sauf Héro, qui était manifestement un gros fan de... Mais autrement, tu vois bien que c'est pas du tout le profil. Donc, peut-être que ça a changé dans les années à venir. Mais c'est vrai que ce qui est fort avec le rap, c'est que ça a été un raz-de-marée, mais qui reste relativement récent. Mais là où tu as tout à fait raison, c'est aussi que, effectivement, sociologiquement, c'est complètement délirant à quel point ça fonctionne bien, quoi. C'est à quel point... Mais il y a un décalage avec les décideurs, et je reviens encore à cette affaire. L'affaire Youssoupha, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a dû avoir un jeune mec à la Fédé qui a dit Youssoupha, c'est le mec qui est crédible pour faire ça. Puis au final, quand il y a une emmerde, les décideurs décident, le Gret, voilà, qui lui a jamais dû écouter de rap de sa vie, décide. Et ce qui est très intéressant, c'était exactement la même histoire avec Damso et la Belgique. Damso, il a fait un hymne qui est génial, qui est pour la sélection belge, mais vraiment à. Et ça a coupé le souffle. Alors, c'est pas un hymne que tu vas brailler, mais les paroles sont splendides. Et il y a des associations belges féministes qui ont dit c'est une honte parce que dans telle chanson, Damso a dit ça. Et la Fédé a reculé. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les aspirations du public et peut-être de certains jeunes mecs dans les instances et puis les décideurs octogénaires, j'exagère à peine, qui disent tout d'un coup ils vont pas prendre le moindre risque et puis de toute façon, cette musique-là, ça leur parle pas. Mais tout ça, ça va peut-être évoluer dans les années à venir, quoi.
Mais pour revenir sur Youssoupha, pour être clair, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu un accord de la direction.
Le GRAT, je pense que c'est impossible. Le GRAT, il a pas dû être consulté là-dessus.
Mais, d'abord, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément consulté sur tout, mais la DG, au moins, et puis on a signé un chèque. Donc à un moment, il y a des responsables qui ont été informés, qui savaient. Et donc la déclaration de Le Gret, c'est quand même se servir de c'est assez dégueulasse, quoi. C'est d'utiliser des jeunes, entre guillemets, du service de com, comme bouclier humain pour protéger sûrement les deux cadres seniors qui ont pris la décision et qui eux rendront. Mais une fois encore, ce qui est marrant sur le recul sur l'affaire Youssoupha, et t'as raison Damso, je l'avais oublié cet épisode concernant la Belgique, le rap est devenu une musique massive, mais c'est pas encore une musique consensuelle.
C'est tout le paradoxe.
C'est paradoxe, c'est-à-dire que le rock peut l'être aujourd'hui, il l'a pas toujours été, mais le rock peut l'être, le punk peut l'être aujourd'hui, bizarrement. L'exemple des Strokes, c'est l'archétype même de ça, même si c'est pas le punk qu'on aime. Certains types de, par exemple, le disco, I Will Survive est emblématique. On l'a rappelé, mais voilà, c'est un morceau qui n'a strictement rien à voir, des années-lumière, l'histoire, c'est complètement autre chose. Mais c'est un morceau de disco, donc tout le monde a dansé le disco en bois. Enfin, mais le rap n'est toujours pas une musique, même si c'est sommé massivement consensuel, qui provoquera toujours un problème. Parce qu'elle est toujours malgré tout attachée à des catégories de personnes qui posent problème, et en plus dans la société où on est. Et la musique, malgré tout, elle est jamais neutre. Sauf, comme j'ai dit, certains chanteurs français sans voix. Mais à part ça, elle est jamais neutre. Et donc forcément, c'est pas la même chose de demander à Johnny Hallyday en France de chanter et qui est devenu une espèce de gloire monument national, c'est à peine si on n'a pas mis une paye en deuil et on a déclaré un jour férié quand il est décédé, que d'aller voir aujourd'hui des talents issus des quartiers populaires qui font du rap et qui peuvent vendre beaucoup, qui peuvent être
reconnus. C'est ça qui est le paradoxe du truc, c'est que voilà, un mec comme Damso, par exemple, c'est aujourd'hui l'artiste francophone le plus écouté, mais de très très loin, quoi. Et donc, en fait, on est face à des gens qui cartonnent et qu'on considère, qu'on prend un peu, certaines élites considèrent un peu de loin en disant, voilà, c'est quand même particulier. Enfin, il y a un décalage total entre, quelque part, les aspirations du public et ce que pense, j'allais dire, l'intelligentsia, pour utiliser un terme qui a un peu mal vieilli, mais c'est étonnant quand même. Hein.
Ouais, mais en fait, c'est même au-delà. C'est-à-dire que je pense que le football, qui aime tellement mettre en avant certaines valeurs, n'a pas envie d'être trop... surtout depuis en France, depuis Gnaissa et compagnie, on veut une équipe de France qui est tout sauf problématique. La façon dont les Bleus 2018 ont été présentés, alors qu'ils ont la même composition d'origine, hein, si on veut, que ceux de 98, mais c'était quand même radicalement différent. Et là, je pense qu'il y a une volonté de la Fédé et une volonté dans le football de rendre les choses les moins abrasives, les moins problématiques. Et donc, forcément, des artistes qui, à un moment, quand ils s'expriment, surtout Youssoupha, on n'aime pas, il ne s'exprime pas neutre, il a des choses à dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas une fois encore. Mais donc, même dans son hymne, il dit des choses. Forcément, ça, c'est plus. C'est autre chose que aller les bleus, voilà. C'est autre chose que. Mais même. Je sais pas, c'est là où ça devient. Le football est quand même. La musique, pour exister, elle doit à un moment raconter quelque chose pour. Elle doit bouger des lignes, elle doit remuer le corps social, elle doit remuer. Enfin, on fait pas que danser les fesses. Et même le disco, dont je me moquais, mais le disco, c'est comme une musique qui renvoie à une certaine conception de la féminité, qui renvoie à une certaine conception même de la culture gay, enfin, etc. Donc il y avait cette dimension-là qui était présente, même dans un truc aussi léger. Tout ça, c'est ce que le foot en ce moment ne veut pas vivre. Il veut être bankable, vendre à tout le monde, que tout. Voilà. Donc, tu sais, c'est le débat sur des footballeurs qui arrivent en costard ou pas, tu vois. C'est. Au stade, c'est ce qui est moi ce qui me fascine toujours, mais voilà, c'est je pense qu'on est là où est la frontière, la césure, où est le problème, et notamment qui s'est retrouvé en plus au Youssoupha dans le contexte actuel, la France d'aujourd'hui, évidemment, c'était gagné d'avance.
Je ne saurais mieux dire.
Mais sûrement tu sais mieux dire, pour ceux qui te lisent dans l'équipe, ils se rendent bien compte que tu sais beaucoup mieux le dire, mais
Non, mais c'est vrai que c'est tu touches quelque chose de très juste, et, mais qui est triste aussi, et qui dit quand même beaucoup de choses sur l'époque et sur le fait que tu vois, t'es incapable d'être dans la nuance. Tu peux pas dire, en fait, aujourd'hui, on est arrivé à un point où on peut pas dire un truc du genre. On est la Fédération française de foot. On pense que Youssoupha est un artiste intéressant, ce qui ne veut pas dire qu'on soutient à 1000% toutes les paroles qu'il a dites. Mais anyway, c'est pas la fin du monde parce que il a fait une œuvre originale. Voilà, avoir une pensée, en fait, c'est impossible. C'est soit t'es « Ah ouais, mais alors du coup, ça veut dire que si tu le soutiens, tu soutiens. » Enfin voilà, en fait, on est dans un débat hystérisé qui fait que, voilà, on aboutit à un truc. Mais moi, voilà, je bloque là-dessus. Mais ce qu'a dit Noël Le Graët sur Youssoupha, c'est quand même, je me mets à la place de Youssoupha. Le mec, il est contacté par la Fédé. Il fait un morceau que je conçois, enfin, à titre personnel, que je trouve très bien. Et qu'ensuite, on vient lui dire, ben non, mec, et ça va être un traumatisme pour lui. Et comme ça a été un traumatisme pour Damso, parce que Damso, il en a fait un morceau, d'ailleurs, dans son dernier album, il y a un moment où on entend un commentaire radio qui dit finalement, la Fédération Belge a décidé de retirer à Damso la possibilité de faire l'hymne officiel. Et parce que Damso, ça l'a traumatisé, c'est peut-être le terme un peu fort, mais ça l'a vraiment marqué, quoi. Parce que c'est symboliquement très fort. C'est, oui, tu fais partie de... Oui, on t'associe à un symbole national. Ah, en fait, non. Oui, cet épisode, il est tellement... d'une tristesse confondante sur voilà, notre incapacité à se comprendre, à parler ensemble, à faire preuve de nuance, c'est déprimant.
Mais les fédérations, elles sont... Vous considérez que les fédérations... Quel est le problème ? Le problème, c'est la fédération, ou le problème, c'est l'opinion publique ? Ou alors, c'est que la fédération soit pas capable d'expliquer à l'opinion publique qu'on a choisi cet artiste et cette chanson pour telle et telle raison, et que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on valide pas l'œuvre de Youssoupha, de Damso, ou de qui vous voulez, on valide pas l'ensemble du rap mondial, mais on a fait ça pour telle raison. Mmh. Et puis finalement, les joueurs, ils pourraient aussi prendre la parole et dire, bah, nous, c'est cette musique qu'on aime, et s'il y a des réussites musicales, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est aussi parce que les joueurs, ben, ils ont fait ce pas-là, ils ont montré leur proximité affective, leur proximité amicale avec ces chanteurs ou avec ces artistes.
Ouais, c'est... Après, les joueurs, ils sont tellement associés à du shitstorm tout le temps, parce qu'ils ratent une passe, parce qu'ils ont fait une déclaration, parce qu'ils ont laissé entendre qu'ils pourraient changer de club alors que ça n'a pas fait... Voilà. Je conçois que là, ils vont pas s'aventurer là-dedans parce qu'ils ont que des coups à prendre, malheureusement, quoi. C'est, voilà, t'as 25 ans, tu joues au foot, tout d'un coup, on te dit, mais alors toi, tu soutiens vraiment tout ce qu'a dit Youssoupha? Parce que là, t'as l'air de dire que t'aimes bien Youssoupha. Enfin, je veux dire, en termes de com, c'est
mais déjà, ils le font quasiment sur très peu de choses. Moi, j'étais très étonné que certains prennent position au moment des bavures policières ou
oui, bien sûr.
Voilà, et là, en plus, l'équipe de France, elle est sur, quand on est équipe de France, t'es sous surveillance, hein, il y a ça qui joue sur le cas de on a tout dit là sur le cas de Youssoupha, puisque c'est un peu ce qui fait l'actu. C'est pas c'est, là pour le coup vraiment c'est la fédération qui se couche devant le RN. Enfin, je sais pas, c'est le RN a dit vous pouvez pas choisir ce mec-là parce que c'est pas consensuel, parce qu'il nous a insulté ou parce que nos électeurs ne l'aiment pas. Si vous voulez faire l'unité de la France, si vous prenez lui, c'est contre nous. Et c'est ça en fait, ce qui est terrifiant. Et là encore, pour le coup, la musique reste. C'est marrant parce qu'elle reste plus abrasive que. Et ce qui est terrifiant, c'est que tout le monde a dit que c'était pas le morceau qui posait problème, y compris les gens du FN. Hein. On dit c'est pas le morceau, c'est le personnage. C'est moi je voilà j'ai c'est là-dessus ils ont comme ils avaient attaqué le retour de Benzema hein, en disant que c'était un Français de papier donc ils travaillent leurs fondamentaux aussi mais voilà c'est ça qui est terrible après bah, ça, je conseille aux rappeurs maintenant de plus accepter quand on viendra les voir et puis voilà
c'est ce qu'a dit Bouba hein. Il a dit si on m'a proposé genre envoyé balader tout
mais voilà, il faut maintenant faire des morceaux extérieurs mais moi je serais la pire vengeance. C'est vrai que c'est Vidré mettait un exemple, mais c'est pas, c'était tout dans le festif. La pire violence, c'est de faire le morceau que dont tout le monde se souviendra autour de cette équipe de France, mais à l'extérieur de la Fédé, quoi. Contre presque. Pour les Bleus, parce qu'ils sont à l'image de, mais contre la Fédé, quoi. Contre cette espèce de merde qui s'est créée, où c'est, voilà, c'est ça, la vraie vengeance, quelque part, elle est artistique, c'est comme dans le Clash. Dans le Clash, les vrais rappeurs, dans le Clash, c'est le but du jeu, c'est pas de se venir à se tirer dessus, c'est d'arriver à l'emporter dans les paroles, dans le flow, dans le, c'est là, et ben voilà, il y a un Clash qui est devant vous, allez-y, relevez le gant, et voilà, mais après, dans l'époque, ils prêtent pas, il n'y a pas de concert, le premier concert autorisé, c'est Indochine, ce qui dit tout de la France, quoi, voilà, c'est...
Après, il y a un truc qui est intéressant, c'est si on se met dans une perspective historique, en fait, la Fédé, elle a toujours eu des problèmes avec ses hymnes officiels. Tu vois, dans les années 80, il y avait eu un truc... la Coupe du Monde 86 où il y avait plein de stars genre Sim en fait plein de chanteurs de variété, il y avait Patrick Sébastien tu vois qui au milieu de la chanson disait allez les rouges, les bleus pardon, il faisait style, il était bourré, enfin en gros ils ont essayé plein de trucs, ça n'a jamais marché jusqu'à Johnny et le dernier truc qu'ils avaient fait c'était à l'Euro 2004, ils avaient avec Jean Rock, ils avaient fait une chanson qui s'appelait je crois Can You Feel It pour l'Euro 2004 et j'encourage tous les auditeurs à écouter Can You Feel It. Et en fait, personne ne sera capable d'aller au bout de cette chanson. C'est intolérable. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, voilà, c'est quel que soit le choix que tu fasses, le DJ cool, le monument national ou le rappeur, en fait, tu t'en sors jamais. C'est impossible. C'est, voilà. Il y a peut-être un problème culturel en France, mais tu ne trouveras jamais un bon hymne officiel de l'équipe de France.
Ah non, ça c'est clair. Mais peut-être qu'il faut arrêter avec les hymnes officiels de l'équipe de France. Et puis laisser les artistes autour faire ce qu'ils ont envie de faire à ce propos ou pas. Et, non, mais... il y avait aussi, je sais plus, en 82, il y avait un hymne d'une...
Denis Fabre,
non ? Denis Fabre. Alors, une anecdote terrifiante, parce que tout le monde a oublié 82, mais premier match de l'équipe de France en 82, la France perd 3-1 contre l'Angleterre, et avec un des buts les plus rapidement marqués de l'histoire de la Coupe du Monde. Et le lendemain, Denis Fabre, qui avait donc fait cette chanson sur les Bleus, alors je sais pas si c'est un hymne officiel, est invité, on lui demande, mais vous n'êtes pas trop triste, vous comprenez, vous allez vendre votre disque, il n'y a pas que la France qui joue en bleu, il y a aussi la Yougoslavie. Ben voilà, c'était ça à l'époque. Moi, j'en regarde un souvenir très fort, j'étais gamin pourtant, et j'ai regardé après.
Mais ça fait écho au c'est qui votre joueur préféré à Johnny Hallyday, qui répond Zazie, quoi. C'est, voilà.
Non, mais parce que Johnny aimait pas le foot. Enfin, c'est
oui, voilà, mais ça fait écho, ça, c'est le même genre de choses.
Moi, j'en suis à un point où j'admirerais les artistes aujourd'hui qui diraient j'ai rien à dire sur le foot, ça m'intéresse pas, c'est pas mon. Ce qui est tout à fait l'endroit le plus strict de dire mais j'en ai rien à battre, quoi. Bizarrement, j'ai pas fait d'interview. J'avais fait des interviews un peu drôles comme ça, mais ouais, des artistes qui assumaient à moitié, tu vois, en rigolant. La chose qui m'intéresse dans le foot, c'est que je veux jouer dans un stade, tu vois.
Y a un mec qui est intéressant là-dessus, c'est Edouard Baird. Edouard Baird, il est pas mal là-dessus. Je dis à Edouard Baird, ça ne l'intéresse pas, et il estime que le foot, c'est la fin du théâtre, en fait. C'est la fin de l'art vivant, de l'art. Et en fait, j'avais fait une interview comme ça dans l'équipe où il disait, mais voilà, la foot, pour lui, c'est une défaite culturelle, quoi. Et que plus les gens vont au stade, moins ils vont au théâtre, moins ils vont voir le spectacle vivant. Après, on n'est pas forcément d'accord, mais au moins, c'est un intérêt de mec. Lui, il ne fait pas semblant de s'intéresser pour être cool. Et il avoue que ça ne l'intéresse pas et qu'il développe pourquoi.
Ouais. Après, ouais, moi, j'aime beaucoup Edouard Baird pour tout ce qu'il fait par ailleurs. Mais franchement, c'est comme quand ils montent en expliquant les gens vont plus au cinéma parce qu'il y a Netflix. Non, ils vont plus au cinéma parce que les places, elles sont à 9 euros, gars. Donc, à un moment, faut aussi regarder aussi un peu ces vérités-là. Donc, mais voilà, mais moi, je pense, d'abord, je pense qu'il a tort. Je pense que les gens qui vont au stade vont consommer plus de culture qu'ailleurs. Voilà, d'expérience pour avoir beaucoup fréquenté des stades. Alors, peut-être les miens sont à part, hein, le Red Star ou la Méno, toi, c'était des. Mais j'ai vraiment fréquenté plutôt des cultureux ou des gens, même des gens qui étaient plutôt, même sans forcément être dans des consommations d'élite, entre guillemets, dites élitistes. Hein. Voilà, mais pour en revenir à ce que tu disais, vraiment, c'est ça que j'aimerais vraiment même plutôt entendre des morceaux anti-foot aujourd'hui talentueux. Tu vois, je pense que c'est plus facile de faire un morceau anti-foot intelligent, un peu subtil, tu vois, ou des morceaux qui soient plus
drôles. L'usine à Mbappé, par exemple.
Parce que, tu vois, c'est bon, nous.
Il y a aussi des gens qui sont justement dans cette mouvance d'Edouard Baird. Ariel Wiesman, il avait un groupe qui s'appelait le Grand Popo Football Club.
Ouais, c'est mais vrai. Il parlait absolument pas. Mais les hommes, c'est pas des mecs bien. C'est un titre assez exceptionnel. Mais voilà, c'est qui est pas faux.
On s'est fait un nombre d'amis dans ce podcast. Hallucinant.
C'est clair. Mais vraiment. D'ailleurs, je dis que tous les propos que j'ai tenus, je les tiens à titre personnel, pas au nom de l'équipe. Hein. Je profite pour le dire.
Je revends tous les droits sur ce podcast à une entreprise nord-coréenne.
Mais voilà, que ça soit clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je parle pas la parole de mon journal.
Moi, j'aime tout le monde.
Non, mais moi j'assume tout ce que je dis, mais voilà, je veux pas le faire porter à d'autres. Voilà. Fin de la parenthèse.
Moi aussi, je tiens à dire que tout le monde à SoFoot est responsable de mes propos et aura en assumé les conséquences. Tant pis pour eux, Shérif Gaymour, tout ça. Désolé, c'est votre journée. Qui est aussi, pour le coup, donc côté un grand amateur de musique et un musicien lui-même, par ailleurs.
Ah, bien sûr.
Et un modèle.
Colonel Parker.
Voilà, exactement. Et un modèle pour les jeunes générations. Voilà, donc. Voilà, donc moi je l'ai été le voir jouer, faire des reprises de Bob Dylan dans un bar parisien, c'était un grand moment merveilleux. Mais voilà, pour revenir à ça, c'est malgré tout, il y a quand même une chance qu'on a. On a peu parlé, parce qu'on a beaucoup parlé des artistes qui aiment le foot. On a quand même très peu de footballeurs qui nous ont infligé de devenir chanteur ou de faire de la musique derrière. Très peu, il y en a eu, hein. Mais il y en a eu très peu. On a. Le syndrome Tommy Parker, je fais du rap, on n'y a pas eu trop droit, je trouve. Voilà. Maintenant. C'est quand même, je pense que ça peut arriver, hein, ça peut se produire, mais voilà, à part je te suivrai là,
Jean-Pierre-François.
À part Rocheteau, tu vois.
Ouais. Il y a eu quelques-uns, il y a eu Yuri.
Pat avait fait un morceau.
Ouais. Bien sûr, l'escargot, mythique. Il y a eu Yuri Djurkaeff quand même, The Snake. Vivre dans ta lumière, ça s'appelait. Et il y a Manu Petit aussi qui avait fait un truc. Pareil, j'encourage tous les auditeurs, je fais le pari, qui seraient incapables d'aller au bout parce que c'était la reprise. C'était sur l'air de ICO et ça faisait et 1, et 2, et 3, 0. C'est intolérable.
Mais encore mieux que ça. C'est... Après, moi, je trouve que les meilleures prestations footballistiques ou de footballeurs, c'est quand ils n'ont pas voulu. C'est comme Cantona, quand il fait Dave Alize, il dit I don't know why I love you, but I love you. Et c'est en pleine époque. Acid House en Angleterre, et il y a un groupe qui prend ce temps de ça et qui leur fait un tube, et en fait ce morceau là il est presque euphorisant, c'est à dire que t'écoutes ça, c'est du moment tu disais de la dope, mais t'as juste envie de t'envoyer des pintes et de sauter en l'air avec tes potes dans un bar, quoi. C'est tellement n'importe quoi, et en fait c'est le plus gros morceau où on entend des voix de footballeurs. Moi je trouve qu'elles sont souvent comme ça, je sais plus où j'avais, c'est comme quand tu mixes les chants de supporters irlandais avec Sunday Bloody Sunday, de U2, tu vois, c'est tellement
n'importe quoi. Il y a un morceau absolument à retrouver sur Bidet Musique où c'est que des phrases de Goethals sur un fond techno. bien sûr, on est content d'avoir gagné. L'AC Milan, c'est une grosse équipe.
Ah, mais c'est incroyable. Guetta, c'était du slam avant l'heure, quoi.
Exactement.
Voilà, c'est ça le truc. Pour l'instant, on est quand même. Mais dans quelques-uns, il y a eu des photos du test, comme quand Pelé posait avec une guitare, toi. Voilà, il y a eu quand même des exemples, mais globalement, on est assez épargné, je trouve, quoi.
Mais il y a aussi des journalistes qui sont aussi musiciens.
Ouais, mais
Philippe Auclair, par exemple, il a fait une très belle carrière.
Qui ça?
Bah là, on parle de très haut niveau, hein, franchement.
Ouais. Qui ça? J'ai pas entendu parler.
Le Louis-Philippe. Ouais, Louis-Philippe, c'est le nom de Louis-Philippe. Après, voilà, donc non, lui c'est vraiment un très très grand musicien qui a une voix splendide. Ouais, là c'est moi Philippe Auclair, c'est quelqu'un dont je suis très impressionné parce que c'est à la fois un très bon journaliste et un excellent musicien, donc c'est assez impressionnant. Hein.
Ouais, c'est pas comme celui qui avait fait Dr House là.
Bon, sur ce, et avant que ce soit, avant d'avoir passé le cut final, moi je voulais faire un instant sur justement musique et football, mais une vue pour les coachs, pour les entraîneurs. Donc évidemment, la musique, c'est souvent sur le chemin du stade ou sur le chemin de l'entraînement, ou alors quand on court dans la forêt. Mais c'est aussi maintenant de plus en plus intégré à l'entraînement du joueur. Par exemple, Philippe Lafroy m'a expliqué, il faut suivre Philippe Lafroy, je donne son à commercial tout de suite avant d'oublier, à commercial PO coach 3 avec le chiffre 3, que lui, il parle beaucoup de l'ambiance musicale à l'entraînement, qui est souvent utilisée pour sortir de la routine et régénérer le groupe. Et il y a de plus en plus d'exercices qui sont faits en musique, et donc le rythme va donner le rythme justement de la passe. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus travaillé. Et pourquoi pas finalement, c'est vrai qu'on entend à tous les niveaux beaucoup d'entraîneurs qui disent qu'il y a une monotonie dans l'entraînement. Intégrer la musique, ça peut être une bonne idée. Donc évidemment, il y a aussi de la musique avant le match. Dans certains pays en Afrique, on rentre sur le terrain en chantant. Ça a un double effet. D'abord, l'équipe fait corps et se rassure. Et ça peut impressionner l'adversaire. Moi, j'ai eu plusieurs témoignages d'éducateurs parisiens qui avaient vu débarquer des équipes venant d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne qui chantaient avec une grosse foi. Et ils expliquaient que ça avait eu un peu un effet de haka sur leurs jeunes... joueur qui avait été très impressionné. Et enfin, la musique, elle est de plus en plus intégrée aussi par la Fédération Suisse qui donne des exercices à faire en musique. Et la fin, ça va moins plaire à Nicolas. La musique, c'est... je te connais. La musique, elle va maintenant... Et musique et foot, ça va maintenant participer au développement des finances des clubs, puisqu'il y a de plus en plus de clubs qui font ce qu'on appelle le fitness foot pour les mamans. Donc voilà, pendant que le petit garçon ou la petite fille fait son entraînement, et bien la maman va faire son fitness foot et ça va régénérer les caisses des clubs.
Ben voilà, faut expliquer à Edouard Baird que la fin de la civilisation, c'est pas ce qu'il pense, c'est pas là que ça se situe, c'est pas le football, les gens qui vont au stade, c'est ça, voilà, la fin de la civilisation, à mon avis, elle va plutôt s'engouffrer dans cette brèche, hein. Voilà, c'est... Voilà.
Bah, parfois, dommage, je vous remercie, pardon, dis-moi.
Ouais, juste pour terminer, je pourrais citer un morceau qui résume absolument toute la discussion que tu as eue, c'est en fait Gilbert Gress, donc mythique coach du Racing, en fait il a entraîné en Suisse et il a suscité parfois avec ses airs un peu ringardos, et je dis ça avec toute la tendresse que j'ai pour lui, il a suscité un hymne techno et je crois que ça s'appelait Hop là Gilbert et en fait c'était des phrases qui disaient pareil avec un rythme techno et ça a cartonné en Suisse. Voilà, donc à la fois ça parle d'entraînement, d'Alsace et de musique et de foot. Voilà, je vous disais, il fallait que j'en parle.
Je vais trouver, moi je vais chercher YouTube tout de suite après, hein, c'est Hop là, Gilbert, c'est incontournable.
Gilbert Gress, c'est mythique. Et en Suisse, c'est quelqu'un qui représente. Moi, j'ai été très étonné. J'ai fait plusieurs podcasts avec les Suisses. Et à chaque fois, moi, évidemment, je leur parle de Gilbert Gress et ils expliquent que vraiment, c'est quelqu'un qui est très, très aimé, très respecté, que c'est une figure du football suisse.
Mais en fait, c'est lui-même qui avait fait, quand il est revenu, je crois, c'est en 2009 au Racing. Et en fait, il y avait un journaliste de l'équipe Mag qui l'avait interviewé. Et justement, pour illustrer sa notoriété en Suisse, il lui avait donné ce CD en disant « Ouais, c'est-à-dire qu'en Suisse... » Enfin voilà, en gros, il lui montrait en disant « Regardez, je suis une star en Suisse. » Et du coup, ce journaliste me l'a ramené en me disant « Tu dois être la seule personne au monde que ça peut intéresser, cette connerie. Voilà. » Voilà, c'est comme ça que je connais l'existence de ce CD.
Il faut que je le cherche. Il me faut. C'est pas possible. J'aime tellement Gilbert, c'est pas possible.
J'en doute pas. Toi, t'as pas fait courir dans la forêt, ça se voit. Ouais. Donc, évidemment, on peut retrouver nos deux invités, Pierrette et Minonzio, sur Twitter, sur un commercial Peminonzio, Peminonzio, et Nicolas Chris Martoff, sur un commercial Martoff, M-A-R-T-O-F-F. TOV. Merci au Can Football Club d'accueillir le podcast sur la ligne qui est disponible sur toutes les plateformes. Et abonnez-vous évidemment au podcast pour ne louper aucun numéro. Vous pouvez aussi vous abonner d'ailleurs aux plateformes musicales comme Spotify. Pour réagir sur ce podcast, vous pouvez réagir en musique d'ailleurs. Moi, commercial, Monsieur Foot de Foot, MRFOOTDEFOOT. Enfin, pour conclure, comme de tradition, je salue et j'embrasse mon fils Adrien. Merci beaucoup, messieurs, et à bientôt.
Merci. À bientôt. Merci à tous.